Voilà, comme chaque mercredi sur Radio Campus, vous avez rendez-vous à 17h30 avec le magazine Lille 1 Info, magazine consacré à l'Université de Lille 1. Nous sommes très heureux d'accueillir M. Salah Malouche, donc, qui est vice-président de l'université, et qui va nous parler aujourd'hui de cette rentrée.
Bonsoir.
Bonsoir, M. Malouche. Donc, une rentrée universitaire, c'est toujours quelque chose d'important. Au départ, ça fait peur quand elle est annoncée, la préparation. Comment on se prépare à une rentrée quand on est du côté de l'organisation, du côté de la structure d'accueil?
Je pense que la peur commence déjà en juillet, lors des premières inscriptions. Allons-nous avoir autant d'étudiants, sinon plus? Et puis, je pense que la rentrée, c'est un peu quelque chose qui est répétitif, qu'on recommence. Donc une fois qu'on est là, on y va. C'est le problème, c'est d'avoir tous les étudiants au bon moment. Donc il y a aussi une peur, en particulier envers les étudiants qui viennent de l'extérieur, de l'étranger, à ce qu'ils vont effectivement arriver à temps pour la semaine de rentrée, pour tout ce qui est préparé pour leur faire connaître l'université.
Donc évidemment, c'est une grosse organisation.
Tout à fait. Il y a des services qui sont, je cite en particulier l'USUIO, qui s'occupe un peu de l'accueil et de l'orientation. Donc c'est un grand travail sur la préparation de la semaine de rentrée, voire des tables rondes pour discuter avec les nouveaux. Mais c'est tout le service des inscriptions, parce qu'il continue, il commence en juillet, il continue en septembre. Donc c'est un grand travail, avec pas mal aussi donc de vacataires qui sont des étudiants qui viennent donner un coup de main. Je pense après, tout le monde est mobilisé donc à ce niveau-là, parce que les DE qui reçoivent les étudiants, qui participent, les référents, les tuteurs qu'il faut lancer, c'est un travail important.
Alors, qu'est-ce qui change d'une année à l'autre sur l'université au niveau du public étudiant, par exemple? Est-ce qu'il y a des tendances?
Je dirais qu'on a la tendance actuelle, c'est, je pense, dû à la natalité, c'est le moins des étudiants. On a de moins en moins d'étudiants. Je peux anticiper en disant qu'aujourd'hui, ça veut dire, je pense plutôt à lundi, donc au 22-10, on doit avoir moins de 300 inscrits que par rapport à l'année dernière, ce qui n'est pas énorme par rapport à l'année passée. Ce qui change, c'est la partie qu'on appelle orientation active avec le dossier unique. Donc dans ce cadre-là, il y a beaucoup donc d'étudiants qui nous arrivent, je pense, de plus en plus en retard. Les proportions sont plus importantes d'une année sur l'autre. C'est vrai qu'ils choisissent d'aller dans des filières qui sont plutôt sélectives. Et lorsqu'ils n'ont pas la bonne filière, ils viennent passer une année à l'université.
Jusqu'à quand on peut s'inscrire à l'université?
Normalement, on s'inscrit jusqu'à peu près 15 octobre, fin octobre.
Donc là, on peut dire que c'est terminé?
Pas du tout. Donc là, il y a les inscriptions sur chaîne. Ça veut dire que les étudiants, d'abord, toutes les réinscriptions se font sur Internet. Il n'y a que les nouveaux arrivants. Ça veut dire la première inscription qui doit se faire donc en présentiel. Donc d'abord sur les chaînes, juillet et septembre. Et puis actuellement, sur rendez-vous au bâtiment A3. Ceci étant, je déroge tout au long de l'année pour que des étudiants qui arrivent en retard, des étudiants qui se réorientent, puissent effectivement se réinscrire. Je peux dire aujourd'hui qu'entre le 15 janvier où nous remettons les bandes, ça veut dire le nombre d'inscrits au ministère, et la fin de l'année, on peut avoir jusqu'à 1000 inscriptions supplémentaires.
Alors, Salah Malouche, vous parliez tout à l'heure de l'accueil des étudiants étrangers. Alors, deux choses. Sont-ils nombreux à l'université? Quelle est la tendance en augmentation, en diminution? Quelle région viennent-ils? Est-ce qu'on sent des nouvelles envies peut-être, des nouvelles demandes peut-être?
Je pense qu'il y a l'OFIP, ce qu'on appelle le tableau de bord qui est élaboré par l'OFIP, un autre donc service commun ô combien important pour l'île 1. Élabore chaque année un tableau de bord qui donne le nombre effectivement d'étudiants par pays. Et celui des pays qui arrive en tête, c'est le Maroc, avec 767, puis la Chine, puis l'Algérie. Je pense qu'on a beaucoup plus de relations avec l'Afrique globalement, l'Afrique plutôt donc francophone, tandis qu'avec la Chine, on a des relations plutôt de convention. Ça veut dire que ce sont des étudiants qui viennent vraiment dans le cadre de convention, alors que je dirais, le Maghreb, c'est plutôt des individus, ce qu'on peut appeler peut-être des électrons libres, mais qui arrivent par... c'est leur choix de venir faire des études.
Alors, ces conventions, est-ce qu'elles sont unilatérales ou est-ce qu'il y a des engagements réciproques à accueillir, par exemple, pour la Chine, des étudiants français, notamment de Lille?
Généralement, c'est plutôt unilatéral. Ça veut dire, pour l'instant, ce sont plutôt des étudiants chinois qui viennent suivre des formations bien précises. Ce sont des formations auxquelles donc, leur pays paye, je dirais, les frais de scolarité et ce qui s'ensuit.
Qu'est-ce qui les intéresse en particulier comme dominante?
A priori, on peut dire que c'est plutôt la nouvelle technologie. Mais on retrouve aussi bien dans les nouvelles, dans les, ce qu'on appelle les STIC, que dans la partie management. Donc c'est vraiment tout azimut.
Et le développement durable, c'est quelque chose auquel ils sont sensibles?
Je ne peux pas vous dire, étant donné le nombre de personnes, est-ce que c'est vraiment très sensible ou pas. Actuellement, je ne pense pas tellement. Je pense que ça intéresse beaucoup plus la partie occidentale, surtout quand on sait à peu près comment ça se passe, je dirais, la partie production ou industrielle, donc en Chine.
Est-ce qu'on peut imaginer être étudiant étranger et facilement être doctorant par la suite?
Ça ne pose aucune difficulté. C'est la suite logique, c'est quelqu'un rentre, donc il fait une licence, il a accès de droit à un master donc en première année. Il y a une sélection qui se fait pour entrer dans un M2. Si la deuxième année lui permet d'accéder à une thèse, ça veut dire que s'il est très bon, qu'il a une bourse ou il a un moyen de financement, il trouve un sujet, il peut faire, ça ne dépend pas de la nationalité. Les bourses qui sont données par les ministères font abstraction de la nationalité. L'essentiel est que l'étudiant soit bon et soit prêt à faire une thèse.
Alors, là, la rentrée est... j'allais dire, est faite, terminée, je ne sais pas.
Non, pas encore, parce qu'on a toujours des inscriptions, on a aussi des réorientations, on a aussi des étudiants qui changent de filière, qui viennent aussi de l'extérieur. Je dirais que ces jours-ci, on a encore quelques étudiants qui arrivent par l'intermédiaire du CEF, à qui on avait donné l'autorisation donc, de s'inscrire, mais qui, pour des raisons donc, de visa, arrivent très en retard.
Alors, la mairie de Lille, par exemple, s'intéresse aux nouveaux étudiants lillois. Elle les a invités aujourd'hui à une rencontre et à une fête. La ville de Villeneuve-d'Ascq aussi distribue des informations pour les étudiants. Donc c'est nouveau cette année, donc on en parle aussi. Et l'université de Lille a évidemment également ses propres informations, peut-être ses propres consignes à donner aux étudiants. Quelles seraient les consignes principales?
Pour les étudiants étrangers, vous voulez dire? Je pense que il y a une connaissance à avoir pour tout étudiant qui rentre à Lille 1. C'est le début, il faut qu'il connaisse à la fois l'accueil, là où il peut avoir des informations, mais il doit aussi suivre la première semaine, voir les informations qui sont données par les DE en ce qui concerne tout le fonctionnement de sa formation. Et tout au long de l'année, je parlais du SUIO, qui est un service d'accueil tout au long de l'année, mais qui prépare aussi, en faisant des tables rondes, pour que les néo entrant, qu'elles soient en première année ou ailleurs, puissent se poser la question que viennent-ils faire effectivement à Lille et quelle formation ils veulent suivre. C'est donc plutôt dans le but d'entamer un peu une discussion sur le projet personnel et professionnel donc, de la personne.
J'ai vu des informations, enfin un tract d'une association étudiante qui dit accompagner des étudiants étrangers quant à leur... à leur arrivée, etc. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y en a certaines, j'en ai rencontré en particulier une, effectivement, qui accompagne plutôt pédagogiquement. Ce sont des étudiants qui ont déjà suivi la formation, qui essayent d'aider les autres. Il y en a d'autres aussi qui les accompagnent sur d'autres plans, donc, dont je n'aimerais pas m'étaler donc, ici. Mais en ce qui concerne la pédagogie, ils sont bienvenus. Mais de l'autre côté, ça se situe en dehors, je dirais, des heures d'enseignement. Il faut dire que Lille 1 accompagne ses étudiants, quels qu'ils soient. Actuellement, il est vrai que l'étudiant, disons français, ou étant tout simplement sur le territoire français, réussit un peu mieux que l'étudiant étranger, et que nous nous y attelons pour justement le ramener au même niveau, voire amener à ce que tout le monde réussisse. Je tiens à vous signaler, vous le savez peut-être déjà, que Lille 1 a été distingué pour sa première année, pour l'aide dans justement les réussites de sa première année. Thank you.
Quelque chose qui est assez nouveau pour les universités, c'est un petit peu l'accompagnement des étudiants quant à leur insertion professionnelle.
Oui, on n'est pas du tout en retard. Je dirais que même le SEIU est devenu depuis quelques années, grâce à l'équipe effectivement qui l'anime, le SEIU IP comme insertion professionnelle. Il y a un an et demi, ce service commun a fait une demande, c'est-à-dire que l'équipe de direction a effectivement apporté, que nous avons essayé de porter dans le cadre de presse pour avoir ce qu'on appelle une plateforme d'insertion professionnelle régionale. Depuis, il y a eu ce décret qui veut instaurer ce qu'on appelle les bureaux d'aide à l'insertion professionnelle. Je tiens à dire que sur l'île 1, il existe déjà. On va bientôt l'officialiser en tant que telle, en tant que structure, pas forcément autonome, mais qui vit par elle-même. Et cette structure est chargée à la fois d'accompagner l'étudiant, je dirais, quand il est chez nous, ça veut dire lorsqu'il fait sa formation, mais il sera aussi accompagné lorsqu'il a son diplôme et qu'il n'arrive pas à trouver un travail. Je voudrais rajouter une chose sur l'accompagnement en général. Ce que fait l'île 1, même s'il est distingué uniquement pour la première année, ce qu'on veut instaurer, c'est un accompagnement. Un lycéen, on va le voir au lycée pour lui dire ce qu'il peut voir et avoir à l'université. Lorsqu'il est à l'université, on l'accompagne pour qu'il fasse sa réussite pédagogique tout en construisant son projet personnel et professionnel. Il y aura des accompagnants, il y aura une cellule particulière qui permet d'être des référents pour ses étudiants. Et lorsque un étudiant a son diplôme, c'est effectivement de l'accompagner pour qu'il puisse trouver un emploi le plus rapidement possible.
Salam Malouche, on ne va pas s'étendre sur les difficultés économiques de la France, voire du monde, et sur les problèmes liés à ces difficultés que rencontre la population, et notamment les étudiants. Mais je pense que les choses ne doivent pas beaucoup s'arranger. Donc pour les étudiants, pour nombre d'entre eux, on va dire que la recherche d'un petit boulot, voire d'un gros boulot, parfois accaparant, est devenue, peut-être malheureusement, une priorité par rapport aux études qu'ils comptent néanmoins réussir. Comment on arrive à conjuguer tout ça?
Il y a une étude qui est faite, qui est sortie sur l'île 1 il n'y a pas très longtemps, qui est faite justement par l'OFIP, qui montre autour de 40% qui font, disons, entre 12 et 15 heures par semaine. C'est vrai que c'est une nécessité pour l'étudiant, il faut qu'il arrive donc à vivre, les coûts sont importants. Il y en a qui sont boursiers, mais la bourse ne suffit probablement pas. D'autres qui ne le sont pas pour justement manque de bourse, mais qui n'ont pas non plus les moyens, donc qui pour cela, le travail devient, je dirais, une obligation s'ils veulent effectivement faire des études. Donc ces étudiants-là, on peut faire peut-être donc des choses pour eux, c'est d'essayer dans les emplois du temps de permettre à ce qu'un étudiant qui travaille puisse avoir au moins un TD, un TP, qui puisse avoir lieu en dehors des heures de travail, et d'organiser peut-être les enseignements pour que quelqu'un qui suive une certaine unité, dans la journée, quand il est libre, qu'il puisse faire son cours, son TD et son TP. À part ça, je pense que c'est à l'État, voire à la région, de subvenir un peu aux besoins des étudiants, ne serait-ce que par la création d'une cité universitaire où, je dirais, les loyers seraient effectivement abordables à ces étudiants.
Dans le temps, enfin, moi je me souviens des années de démarrage de Radio Campus, 69, il y avait quand même beaucoup d'étudiants en résidence à l'époque par rapport à la population, en pourcentage. Ce pourcentage semble avoir beaucoup chuté.
Le pourcentage, certainement, puisque le nombre d'étudiants a presque explosé. Quand on regarde sur le campus, il y a toujours les quatre mêmes cités, même s'il y a deux cités qui sont créées pour des écoles. Mais ça ne permet qu'aux étudiants de cette école d'y accéder. Le reste, c'est à peu près le même nombre. Les étudiants qui viennent sur l'île habitent en majorité, chez l'habitant de la région, donc où les frais ne sont pas tout à fait les mêmes que lorsqu'elle est sur la cité universitaire. Le pourcentage a certainement diminué, le nombre de chambres n'ayant pas augmenté, le nombre d'étudiants a effectivement beaucoup augmenté.
Donc on va résumer, on a démocratisé l'accès aux études, mais pas forcément accompagné cet accès par des mesures permettant aux étudiants de vivre, j'allais dire, dignement.
Tout à fait. Le problème ne se pose pas uniquement pour les étudiants, je dirais, de la région, parce que quand on habite Calais, on peut aller aussi à l'université, donc encore, mais on peut venir à Lille parce que son projet se doit se faire à Lille. Mais il y a aussi tous les étrangers qui viennent dans la région qui n'arrivent pas à trouver de logement.
Sana Manouche, pour les étudiants qui vraiment soit quittent la région mais veulent rester dans un cadre universitaire, donc d'études, ou qui ont un souci particulier de santé ou d'autres, il existe l'enseignement à distance depuis très longtemps. Hein. Est-ce que cet enseignement à distance évolue en fonction de cette demande, et cette demande, comment elle se concrétise ?
À Lille 1, il y a un service encore commun qui s'occupe un peu, qui s'appelle le SAM, qui s'occupe de cette partie. C'est-à-dire qu'il existe déjà des formations sur Lille 1 qui sont complètement à distance. Depuis cette année, on a mis une plateforme qui s'appelle la plateforme Moodle, qui doit être l'unique pour une fois donc sur Lille 1 et sur laquelle on peut effectivement faire des enseignements à distance, comme il en existe d'autres. Je pense que d'abord, nous voulons que cette plateforme serve d'abord d'aide. Il y aura des formations quand c'est nécessaire qui peuvent être effectivement à distance, mais je parlais tout à l'heure des étudiants qui travaillent. Ça peut être une solution de leur proposer effectivement des enseignements à distance lorsqu'ils sont chez eux, en fin d'angle de travail, qu'ils puissent y accéder à ce qu'on peut appeler en différé pour qu'ils puissent voir à la fois les cours, les TD. Mais ça peut servir aussi dans des formations qui sont dites plutôt synchrones, ça veut dire en présence d'un enseignant à un moment donné, mais où les étudiants sont répartis dans le monde. On a deux masters sur ce format-là.
On peut supposer que les nouvelles technologies sont d'un grand secours ?
Certainement, mais d'un grand secours, mais ils ne peuvent, à mon sens, pas remplacer le présentiel. Dans certains cas, peut-être oui, mais dans les secteurs, je dirais, technologiques, ça serait plutôt complémentaire au présentiel. Il y aura toujours des cours en présentiel et des TD et surtout donc des TP, et la partie, disons, non présentielle, qui est celle qui va se faire par l'intermédiaire donc du net, pourrait être uniquement un accompagnement, une aide à l'étudiant.
Le cadre d'études, la qualité des études est bien sûr primordiale pour l'université. Là, j'ai rencontré par exemple des universités canadiennes qui venaient un peu démarcher à Lille les étudiants pour leur proposer de suivre les cours dans les universités canadiennes en présentant ces formations comme excellentes et un bon environnement et un bon accueil. Bon, par rapport à ça, est-ce qu'une université comme Lille 1 se sent en concurrence et peut-être comment elle s'adapte, elle réagit?
Je pense que quand vous regardez, Lille 1 est déjà dans les 500, donc dans le classement de Shanghai, il est dans le dernier classement donc du Times, elle est dans ce classement classé 9e parmi les universités, dans les 15e avec les écoles, ce qui n'est pas une chose. Est-ce qu'on est concurrent avec des universités canadiennes? Je ne pense pas tant que ça, parce que d'abord c'est relativement loin, on est peut-être concurrent sur une population, c'est celle des étrangers qui cherchent de bonnes universités sur des thématiques particulières. Et sur certaines thématiques, on peut dire qu'on est bon et que les étudiants peuvent venir et viennent directement chez nous. On peut citer la partie de nanotechnologie en particulier, où ça marche effectivement avec un grand laboratoire sur l'IA.
Alors, la perspective des emplois, peut-être que certains rêvent que dans d'autres pays, l'emploi est plus évident en termes de débouchés du parcours du cursus universitaire. Est-ce que les conditions justement économiques et de l'emploi ont aussi une influence sur le choix des universités ?
C'est peut-être difficile à répondre, mais je pense que l'université n'est pas responsable du non-emploi des étudiants. Elle est responsable de leur formation. Elle est responsable aussi de l'adéquation de la formation de l'étudiant à un certain secteur d'activité. Il s'avère que si l'emploi, à un moment donné, donc baisse, il est logique que tout le monde ne puisse pas trouver tout de suite un travail. Quand vous regardez les évaluations qui ont été faites des insertions professionnelles de nos formations dites professionnalisantes, on n'a pas à rougir par rapport aux écoles, pour ne pas les citer. Dans certains masters, ils sont employés à 100%. Je peux citer le journal qui édite les pipites des universités. Vous pouvez regarder certains masters où ils sont effectivement employés dès la sortie à 100%, d'autres qui sont à 95%. Donc, il y a du travail. L'avantage, peut-être, de l'université, c'est ce que nous essayons donc de faire, c'est de pouvoir réagir et de pouvoir adapter certaines formations pour qu'on ne reste pas trop longtemps avec des produits qui ne donnent pas lieu à un travail ou qui s'expatrient. De l'autre côté, la région est relativement pauvre en entreprises de production, donc les étudiants qui sont formés à l'île 1 vont plutôt à l'extérieur. Et dans le cadre de la plateforme d'insertion professionnelle dont je parlais, l'idée c'était d'étendre un peu le champ, je dirais, de recherche d'emploi pour nos étudiants à leur région et non pas se restreindre uniquement au Nord-Pas-de-Calais, voire un peu au nord de Paris.
Alors, je ne sais pas hein, si on constate, mais j'ai cette impression que la taille d'une université peut avoir une influence sur son rayonnement. C'est-à-dire que, par exemple, on peut imaginer que l'île 1, l'île 2, l'île 3, voire d'autres, puissent s'associer dans certaines conditions pour être plus fortes, pour, j'allais dire, conquérir, c'est peut-être un grand mot, mais pour développer leur réseau peut-être, et puis non seulement attirer, mais former des gens qui choisissent ces universités donc, et les défendent.
Le plan campus a été construit un peu dans ce sens-là. Le plan campus est basé d'abord sur une fusion à l'horizon 2013 de l'université Lille 1, Lille 2, Lille 3 pour en faire une seule. Peut-être que le mot fusion est fort, mais c'est pour en faire l'université de Lille. À côté de l'université de Lille se trouvent certaines écoles et pour former ce qu'on appelait le campus et qui malheureusement pour l'instant est resté un peu en sommeil, vu qu'on était classé plutôt 11e que 10e. Ceci étant, il est vrai qu'il y a d'abord une économie d'échelle lorsqu'on a de grands ensembles. Lorsqu'on a beaucoup d'étudiants, on a aussi beaucoup donc d'enseignants-chercheurs, beaucoup de chercheurs. Ça permet d'attirer donc encore d'autres. Ça fait un rayonnement. Or, les classements tiennent compte à la fois de la réussite des étudiants, de la qualité de la recherche, mais aussi de l'attraction. Ça veut dire que peut exercer donc un établissement. Elle est certes être le plus complet possible dans une université, ça veut dire regrouper la médecine, les sciences en général et les lettres, permettrait à Lille certainement de progresser dans tous les classements et d'être bien vu de l'extérieur.
Alors, un autre j'allais dire, atout d'une université, notamment de l'île 1, c'est peut-être le cadre physique, je veux dire, l'environnement, les arbres. Quand on connaît l'université depuis 69, par exemple, on peut imaginer quel parcours, quelle évolution et quelle transformation du paysage.
J'ai pas eu la chance de la connaître tout à fait au début, mais je l'ai connue effectivement à l'époque. On commençait encore à planter des arbres pour empêcher un peu les vents. Mais depuis, il y avait une grande évolution. Si on la regarde aujourd'hui, c'est pas uniquement la verdure, l'extérieur, mais il y a aussi ce qui est construit en particulier pour l'étudiant. Il y a d'abord la culture qui est pour à la fois pour le personnel et pour l'étudiant. Il y a aussi cette maison de l'étudiant qui est géré par les étudiants, et qui est très important pour justement la population donc étudiantine, c'est un milieu qui est fait effectivement donc pour eux. On espère, et probablement, que si ce plan campus arrive à fournir un peu plus de moyens, d'avoir aussi, ce qu'on peut appeler, une maison donc du personnel, et puis d'avoir surtout un learning center, ça veut dire l'extension de cette bibliothèque qui est ce petit bateau un peu rond qui se trouve au milieu du campus.
Alors, il va être temps de conclure. Peut-être un dernier conseil pour les étudiants qui viennent d'arriver.
Je pense qu'un étudiant, je peux leur donner que des conseils plutôt donc de base. Je pense qu'il y a dans chaque formation, il y a un secrétariat pédagogique, il y a un DE. Venir à l'université, c'est continuer à travailler un peu plus peut-être qu'au lycée, mais c'est aussi se conduire vers l'autonomie. Donc c'est à l'étudiant d'aller chercher les informations à chaque fois qu'il a une difficulté quelconque, qu'elle soit du niveau social ou du niveau pédagogique. On peut l'aider, mais il faut qu'on le sache. Donc qu'il pose les questions et qu'il les pose. Il y a le service donc d'accompagnement et d'accueil qui est au SUIU, et il y a les directeurs donc d'études, et c'est nécessaire, il y a le secrétaire pédagogique, voire toute la partie vie étudiante qui se trouve au A3.
Voilà, bien, le message est bien lancé. Merci, Monsieur Salam Aouche.
Merci beaucoup. Au revoir.